France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que le 46e président des États-Unis est désormais installé dans le bureau ovale, le monde attend de voir comment il va s'y prendre pour régler les grands problèmes du monde. Et parmi les défis à relever, le nucléaire. Avec l'Iran d'abord, où la nouvelle administration a d'ores et déjà annoncé son désir de renouer langue avec Téhéran, mais aussi avec Moscou, puisque le traité New Start prévoyant la réduction des armes stratégiques arrive à expiration en février 2021, là, dans 15 jours. Sans oublier la Corée du Nord, bien sûr. Donald Trump avait amorcé un réchauffement inédit, on s'en souvient, avec Pyongyang, mais sans toutefois obtenir de résultats probant en matière nucléaire. Alors Joe Biden pourra-t-il faire mieux alors qu'entre en vigueur aussi aujourd'hui un traité sur l'interdiction des armes nucléaires signé par une cinquantaine de pays? Et d'ailleurs, quelles sont exactement les positions de Joe Biden sur le sujet? On va en parler tout de suite.
C'est la plus grande préoccupation que nous ayons. Nous n'avons pas besoin de plus d'armes nucléaires. Point final. Je veux donc dire que mon effort continuera d'être, en tant que président des États-Unis, de réduire l'arsenal total d'armes qui existent dans le monde et qui sont de nature nucléaire. Quoi qu'il en soit, c'est la seule chose qui, hormis le climat, peut changer le monde littéralement, physiquement comme nous le savons. C'est une menace existentielle. Et je pense que nous devrions avoir une politique de non-recours en premier en termes de missiles balistiques intercontinentaux.
Voilà, Joe Biden qui en juin 2019 répondait à une question sur la politique en matière d'armes nucléaires à Berlin, non pas en Allemagne, mais dans le New Hampshire. Bonjour Emmanuel Maître.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour Barthélémy Courmont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, directeur de recherche à l'IRIS. Et bonjour Marc Semeau, notre partenaire du Monde.
Bonjour.
Marc, il y a tout un tas de sujets sur lesquels on attend Joe Biden, évidemment, mais il y en a un sur lequel il est très attendu et sur lequel il va devoir travailler très vite, c'est le nucléaire.
Absolument. D'autant qu'il y a une décision symbolique qui est l'entrée en vigueur aujourd'hui du traité qui met au ban les armes nucléaires. Alors c'est assurément un symbole fort, mais le risque pour ce traité est de rester purement symbolique. Qui, à part les historiens de la diplomatie, se souvient du pacte Briand-Kellogg signé par 63 pays de la Société des Nations pour interdire la guerre? C'était en 1928. On a vu ce qui s'est passé ensuite. Alors aucune des puissances nucléaires n'a signé le traité de l'ONU, mais il est quand même là. Et le pari des promoteurs est la vertu de l'exemple. Rendre la possession des armes nucléaires honteuse. Cela a fonctionné pour l'interdiction des armes chimiques, pour les mines antipersonnelles, mais les enjeux du nucléaire sont évidemment bien différents. Le nucléaire fonde l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont en commun d'être les seuls pays légalement dotés de l'arme nucléaire. Le risque d'anéantissement mutuel a évité le conflit entre les grands, mais aujourd'hui, cet équilibre de la terreur vacille. Le traité de non-prolifération n'a pas empêché ces dernières années de nouveaux pays de se doter de l'arme nucléaire, le Pakistan, l'Inde, Israël, la Corée du Nord, ou de tenter de l'acquérir comme l'Iran. Et les pays dotés, en conséquence, modernisent leur arsenal. Alors c'est pour empêcher cette course vers le pire que se sont mobilisés les partisans du traité d'interdiction. Les puissances dotées, à commencer par la France, parient sur la dissuasion qui, selon la célèbre formule de Raymond Aron, contient l'extrême violence dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'elle la limite en même temps qu'elle la fonde.
Voilà, le décor est posé. Emmanuel Maître, est-ce que vous pensez que cette année 2021 est une année décisive s'agissant de la question du nucléaire? Parce qu'on a d'un côté, Marc le rappelait, cet accord sur l'interdiction des armes nucléaires, et puis de l'autre, on a quand même toute une série de dossiers qui attendent Joe Biden et qui, s'ils ne sont pas réglés, risquent de pousser le monde vers une nouvelle étape de la, vers une montée en puissance de la question nucléaire, en Iran, Corée du Nord, du côté de la Russie également. On est là à la croisée des chemins, Emmanuel Maître?
Oui, alors c'est vrai que c'est une année importante et puis évidemment ça coïncide avec le début d'une nouvelle administration à Washington qui suit une administration qui a été assez particulière quand même sur ces questions-là. Les échéances cruciales, vous les avez mentionnées, c'est bien sûr ce dossier iranien très important parce que là, sur ce dossier-là, on a On a vu l'Iran prendre un certain nombre de mesures pour se rapprocher tout doucement de ce qui serait une capacité nucléaire militaire. Et évidemment, tout l'enjeu de la diplomatie maintenant, ça va être de revenir un petit peu aux restrictions qu'on avait adoptées en 2015. Donc là, une échéance très importante. Et puis cette échéance du New Start d'ici à février. Donc là, c'est quasiment immédiat.
Oui.
Pour essayer de préserver un accord de maîtrise des armements. Alors, après, sur le contexte...
Je vais faire tourner la parole, Emmanuel Metz, si vous le permettez, mais je vais vous la redonner, évidemment. Hein, mais peut-être une première réaction de Barthélémy Comon, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Iran, et on a raison. Mais en fait, l'extrême urgence, elle vient du côté de Moscou, parce qu'il va falloir, là, on a maintenant 15 jours exactement, pour prolonger ce fameux traité de New Start qui arrive à expiration début février. Et d'ailleurs, quelques minutes seulement après l'entrée en fonction officielle de Biden, l'administration russe publie un communiqué dans lequel elle expliquait attendre un travail plus constructif, disait-elle, avec l'administration du nouveau président. On peut savoir un peu, Barthélémy Comon, où en sont là les discussions? Est-ce qu'on peut espérer qu'on aura au moins une prolongation du texte d'ici février ou ça va être compliqué?
Alors, en toute sincérité, je pense qu'on peut effectivement espérer une prolongation pour 5 ans du traité New Start. Mmh. On a vu quel est l'engagement de Joe Biden sur cette question. Je dirais d'une certaine manière que cette administration Biden, sur ces différents points, va être une forme d'administration Obama 3. On va reprendre d'une certaine manière l'héritage qui était celui de l'administration Obama. Et c'était précisément sous cette administration que New Start avait été signé et était entré en vigueur. Donc, il y a a priori, beaucoup d'espoir de voir les États-Unis débloquer la situation. Je dis bien débloquer parce que sur ce point précis, l'administration Trump s'est montrée un petit peu en retrait et n'a pas véritablement communiqué ses intentions.
Pourquoi sur le C'était délibéré C'était pour mettre son successeur dans la difficulté?
Alors, on peut dire beaucoup de choses hein, sur la méthode de Donald Trump en matière de politique étrangère et cette volonté d'essayer de mettre un petit peu toujours la pression sur ses interlocuteurs. Donc sans doute qu'il y a de cela. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un niveau de mauvaise préparation ou de mauvaise anticipation par rapport à ces questions qui sont des questions qui, a priori, ne doivent pas être liées à des enjeux commerciaux ou des enjeux de politique, voire même de politique intérieure aux États-Unis. Il y a peut-être beaucoup d'explications hein, et je pense qu'on ne connaît pas encore toutes les raisons. Mais ce qui est certain, c'est que effectivement Biden a pris des positions fortes sur ce point. Et puis on sait que côté russe, il y a effectivement des attentes. Donc je dirais que les deux parties semblent sur la même ligne, sur la nécessité de ne pas entraver la reconduction de ce traité.
Donc on peut avoir, a priori, on peut penser qu'on aura une prolongation. Emmanuel Maître, et ensuite Marc Sémon, je vous donne la parole, mais Emmanuel Maître, parmi les causes qui peuvent expliquer que la précédente administration n'a pas signé cette prolongation, c'est que visiblement, on considérait qu'il fallait absolument inclure dans le nouveau texte des nouvelles armes stratégiques russes qui, visiblement, font très peur du côté des États-Unis. Vous pouvez nous en dire sur ce point-là, quelles sont ces armes qui posent problème? Et est-ce qu'il vous semble que sur ce point en particulier, on pourrait avoir un accord?
Oui, alors il y avait un ensemble de facteurs. Hein. Il y avait de critiques, notamment chez certains républicains, la volonté de pas avoir du tout d'accord qui puisse limiter ce que font les États-Unis eux-mêmes. Il y avait le fait que beaucoup accusaient la Russie de tricher sur un certain nombre d'autres engagements et donc pensaient qu'en quelque sorte ils allaient récompenser Moscou s'ils lui offraient la possibilité de rester dans un accord contraignant pour les États-Unis. Et puis il y avait l'argument selon lequel c'était ridicule de faire un accord bilatéral de nos jours alors que la Chine était une menace importante. Et enfin, il y avait cet argument des nouvelles armes qui est partiellement sérieux, je dirais, parce qu'il y a un certain nombre de ces nouveaux projets d'armes stratégiques qui peuvent rentrer dans le New Start sans trop de difficultés. Et puis, il y en a un certain nombre d'autres, en fait, deux systèmes qui sont pour l'instant en développement. Il n'y a pas encore de système déployé sur lesquels il faudrait négocier pour essayer de les réinclure dans un périmètre de limitation des armements. Ça va être la priorité, je pense, de l'administration dans le cycle de négociation qui risque de s'ouvrir.
Mmh. Marc Sémon.
Alors, à propos de la Russie, il y a ces discussions sur le nucléaire qui, effectivement, raisonnablement, devrait aboutir à une prolongation pour le New Start. Mais est-ce qu'il n'y a pas malgré tout déjà une conflictualité très forte entre la nouvelle administration et Moscou? Alors il y avait eu la cyberattaque hein, que l'on attribue aux Russes, sur lesquels les Américains ont durci le ton, et notamment cette administration, plus Navalny, sur laquelle cette administration est extrêmement dure, en condamnant l'arrestation de Navalny. Donc est-ce qu'il n'y a pas de la part de Biden beaucoup moins d'ambiguïté et une volonté plus ferme vis-à-vis de Moscou,
Barthélémy,
que l'on sent déjà?
Barthélémy Cormon.
Alors, le fait qu'il y ait moins d'ambiguïté, je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point, si on prend de manière générale la relation entre Washington et Moscou. Je pense que du côté de l'administration Biden, et on le voit d'ailleurs dans les différents décrets qui ont été signés par le nouveau président américain, il y a visiblement un certain nombre de priorités qui sont posées sur la table, et puis il y a des enjeux stratégiques qui vont peut-être revenir un petit peu après ces priorités. New Start, clairement, fait partie des priorités de cette administration, donc je ne pense pas que les mauvaises relations ou les tensions qui sont réelles entre Washington et Moscou puissent empêcher la reconduction de ce traité. En revanche, il est certain qu'une fois qu'on sera passé à l'après, donc quand on sera dans deux semaines, hein, ça va arriver très très vite, là on va pouvoir effectivement ressortir toute l'animosité qui peut exister sur les soupçons relatifs, on l'a dit, avec ces nouvelles armes, au respect tout simplement des termes de ce traité, mais aussi effectivement à des questions qui sont plus fondamentales et qui affectent la relation de confiance entre les deux pays. On retrouve exactement la même chose sur un certain nombre d'autres dossiers qui sont relatifs à la prolifération, hein. Et de fait, il y a vraiment une diplomatie un petit peu en deux temps. Dans un premier temps, essayer tout de suite de gommer ce qui est perçu par cette nouvelle administration comme des imperfections ou des mauvaises choses qui sont celles de l'administration sortante. Et puis de l'autre, essayer de réimprimer un certain nombre d'ambitions ou de projets en matière de politique étrangère et de défense.
Oui, et puis par ailleurs, Donald Trump, faut s'en souvenir, a su se montrer assez ferme sur ces sujets-là. Faut se souvenir que c'est lui qui avait décidé de sortir du traité FMI, un traité signé en 87 entre Reagan et Gorbatchev, qui interdisait de tester, de produire, de déployer des missiles sol-sol d'une portée comprise entre 500 et 5500 kilomètres. Mais derrière la Russie, Emmanuel Maître, est-ce qu'on n'a pas aussi, avant d'aborder l'Iran dont on va parler, on en parlera beaucoup demain dans l'émission de Christine Ockrent, derrière la Russie, est-ce qu'il n'y a pas un autre acteur qu'il faut là introduire, qui est la Chine? Parce que je crois que parmi les raisons qui ont fait que la précédente administration n'a pas signé justement la prolongation du traité New Start, il y avait cette question de la Chine. Trump et son administration voulaient inclure Pékin dans un nouveau traité. Sauf que le souci, c'est du côté de la Chine, on n'a absolument pas l'intention de se restreindre en matière de nucléaire. Bien au contraire, en réalité, on considère que il faut se nucléariser pour se mettre à la hauteur, au fond, de son poids économique, démographique, politique et celui de Pékin aujourd'hui, Emmanuel Maître.
Oui, alors, bon, du point de vue officiel de la Chine, il y a une politique de retenue vis-à-vis du nucléaire qui consiste à dire qu'ils n'emploieront jamais l'arme nucléaire en premier dans un conflit, d'une part, et deuxièmement, qu'ils se refusent à toute logique de course aux armements. Et là-dessus, on peut dire que leur arsenal reste beaucoup plus modeste que celui que peut avoir les États-Unis ou la Russie. Et a priori, ils ne souhaitent absolument pas rentrer dans une logique d'une quelconque parité quantitative. Néanmoins, cet arsenal progresse tout à fait. Au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, avec vraiment des améliorations sur l'ensemble du spectre, et il préoccupe beaucoup les États-Unis, ça c'est très clair, d'autant que la Chine refuse de faire preuve de transparence par rapport à cet arsenal, donc ne dit pas combien de têtes elle peut avoir, où elles sont localisées, etc. Et c'est vraiment une inquiétude stratégique et un point de blocage dans toute tentative de faire émerger une dynamique de maîtrise des armements en Asie.
Barthélémy Cormon sur la Chine et ensuite on passe à l'Iran.
Oui, alors sur ce point précis, effectivement, Emmanuel Maître le disait très justement, il y a un déséquilibre capacitaire qui est absolument considérable entre Washington et Pékin, mais effectivement, on peut considérer qu'il n'y a pas de rupture sur cette perception de la Chine entre l'administration Trump et l'administration Biden, il y a au contraire une continuité, et la Chine va continuer d'apparaître comme ce compétiteur, voire ce rival stratégique pour Washington, et effectivement, j'ai presque envie de dire que passer sur New Start et reconduire ce traité, ça va être l'occasion aussi de se recentrer sur ce qui est perçu à juste titre ou non, comme une menace chinoise, avec notamment cette montée en puissance capacitaire qui est tout à fait notable, même si encore une fois on reste très très loin des niveaux qui sont ceux de Washington. Je rappelle que New Start, hein, on est sur, je crois, 1550 ogives, c'est la limite, hein, pour chacun des deux pays signataires. C'est plus du triple du nombre d'ogives nucléaires en Chine. Et puis on a évidemment après un niveau de technicité, de performance qui évidemment n'est pas du tout symétrique.
Alors l'autre évidemment dossier chaud dans le domaine du nucléaire pour Biden, c'est l'Iran. On sait que le pays a déjà repris l'enrichissement d'uranium bien au-delà des niveaux qui étaient prévus dans le traité duquel Trump avait décidé de se retirer. On sait aussi que la nouvelle administration américaine a déjà pris langue depuis un moment déjà avec Téhéran, notamment entre le représentant iranien auprès des Nations Unies et un émissaire de l'administration Biden, comme quoi eh bien l'arène onusienne parfois ça peut encore servir. Est-ce qu'on peut avoir, Emmanuel Maître, à l'instar de la décision de Biden de revenir dans l'accord de Paris, s'agissant du climat, est-ce qu'on peut avoir un Biden qui, tout simplement, j'allais dire, décide de revenir dans l'accord de 2015 ?
Benjamin ?
Alors, Emmanuel Maître. Oui, c'est l'objectif qui a été affiché pour l'instant par les gens qui sont pressentis aux différents postes dans l'administration Biden. Mais revenir tout simplement à 2015, c'est pas possible parce que beaucoup de choses ont changé dans les deux pays. Donc ce sera difficile. Ce sera forcément une négociation difficile. Et elle le sera pas moins forcément à Téhéran. On sait que c'est une année électorale. Revenir à des restrictions sans garantie forcément que les États-Unis vont appliquer véritablement ce qu'ils s'engagent à mettre en place, c'est-à-dire la levée des sanctions, ce sera sans doute compliqué. Ça va être une négociation très très difficile à mener pour la nouvelle équipe.
Barthélémy Courmont, vous y croyez, vous ? Est-ce que du côté de Biden, on pourrait décider de revenir dans l'accord de 2015 ? Et est-ce que du côté de Téhéran, on est prêt à le faire ? Parce que on a quand même subi une certaine déconvenue, en tout cas pour le camp qui défendait précisément le principe d'un traité.
Non, je me montre également assez pessimiste sur ce point. Il y a tout simplement une relation de confiance, hein, qui a été brisée. L'administration Obama avait mis beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de bâtir cette relation de confiance qui avait abouti à cet accord en 2015. On a effectivement, avec le retrait américain, et puis ne le cachons pas non plus, avec le non-respect des engagements côté iranien, beaucoup de déconvenues. Elles ont d'ailleurs été également notées ici en France, hein, et par les différents signataires de ce traité. Et donc, on va...
Vous parlez de Jean-Yves Le Drian, là ? Vous faites référence aux déclarations.
Je parle des propos de Jean-Yves Le Drian, absolument. Absolument. Je parle des propos de Jean-Yves Le Drian récemment, qui sont assez alarmistes, hein, sur le fait que l'Iran n'a de fait pas non plus respecté ses engagements. Je dirais que ça ressemble beaucoup à la situation que nous avons observée entre les États-Unis et la Corée du Nord à la fin des années 90, hein, il y avait eu un traité en 1994, le traité de l'Akedo, qui était censé garantir une coopération en échange d'une dénucléarisation. Et puis on s'était finalement rendu compte que d'un côté comme de l'autre, on n'avait visiblement pas l'intention d'en respecter les termes. Est-ce que malheureusement on n'observe pas le même schéma ici ?
Oui, et puis Jean-Yves Le Drian donc qui a demandé à ce qu'on se montre ferme vis-à-vis de l'Iran, et qui, on peut faire un autre parallèle, qui au fond n'est pas très éloigné de la position qui était celle de la France à l'époque justement des négociations, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, la France s'était montrée beaucoup plus ferme justement dans les revendications. Les États-Unis étaient plus souples et la France avait joué un peu le rôle du bad cop à l'époque. Marc Semeau.
Bon, sur ce point, aujourd'hui, la France avait joué le rôle du bad cop. Elle avait d'ailleurs refusé une première version du traité qu'elle jugeait trop flou et trop faible. Le traité avait beaucoup de limites. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que, y compris les deux autres Européens, sans parler de l'administration américaine qui y revient, disent on ne peut pas reprendre le traité tel qu'il est. Et ils insistent sur la nécessité d'intégrer aussi la question du balistique, de qu'est-ce qu'on va faire après 2025, sans parler du rôle de déstabilisation régionale de l'Iran. Alors justement, dans cette hypothèse-là, c'est quasiment impossible d'imaginer qu'on puisse arriver à un compromis avec Téhéran.
Emmanuel Maître.
Ça, c'est une grosse difficulté. Alors, je voudrais noter quand même deux points, peut-être, qui sont des points d'optimisme. Le premier, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait qui est irréversible, vraiment sur le point purement nucléaire. Hein. On disait l'Iran a dépassé ses seuils, mais dans l'absolu, rien n'empêcherait de revenir. L'autre point, c'est que l'AIEA a toujours plus continué à faire son travail de vérification, a toujours jugé qu'elle avait accès à ce qui était nécessaire pour garantir le caractère pacifique du programme. Donc ça, c'est deux points qui seraient vraiment utiles utile à tout le moins de sauvegarder. Après, dès qu'on commence à parler du balistique, du programme de missiles iranien en particulier, je pense qu'on s'expose à échouer dans toute négociation pour l'instant, parce que c'est un point qui semble vraiment être non négociable du côté de Téhéran.
Je rappelle à nos auditeurs que pour poursuivre ces discussions autour de l'Iran, eh bien rendez-vous demain chez Christine Ockrent, ça sera le sujet de son émission. Autre dossier, Barthélémy Courmont, important, toujours sur la prolifération nucléaire, la Corée du Nord. L'un des faits marquants quand même du mandat de Trump, ça restera ce rapprochement historique avec la Corée du Nord, dont il a rencontré le leader à plusieurs reprises, à Hanoï, sur la DMZ. Trump disait de son homologue que c'était son ami. Joe Biden, lui, le qualifie de voyou. Quelques jours avant l'entrée en fonction de Biden, Pyongyang a organisé une grande parade militaire, exhibant notamment des fusées ayant, je cite, la capacité d'anéantir totalement les ennemis de manière préventive en dehors du territoire. On a compris le message, c'est parfaitement limpide. Qu'est-ce que l'arrivée de Biden va changer à ce dossier nucléaire nord-coréen, Barthélémy Courmont?
Alors, il y a eu effectivement sur ce point ce qu'on pourrait considérer être des avancées notables sous l'administration Trump, avec ses trois rencontres et notamment celle de Panmunjom, le nom de la zone démilitarisée. Cependant, ces rencontres étaient purement symboliques puisqu'elles n'ont pas été accompagnées de négociations, elles n'ont pas été accompagnées de réflexions sur la question de la prolifération. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore parler de prolifération dans le cas de la Corée du Nord, dans la mesure où malheureusement ce pays a déjà procédé à des essais nucléaires, ça c'est une autre question, mais en tout cas on est passé évidemment au stade supérieur, ce qui encore une fois n'est pas le cas de l'Iran, il est important de le noter. Mais effectivement, au-delà donc du fait qu'il y a sans doute eu peu de préparation et peu d'ambition, j'ai presque envie de dire, dans ces rencontres que nous avons observées, elles sont malgré tout très lourdes de sens, et la grande question désormais c'est de savoir si Biden peut faire machine arrière, puisqu'on a vu ses propos très durs du nouveau président américain qui explique qu'il ne va pas s'acoquiner avec les dictateurs, hein, je crois que ce sont les termes qu'il a utilisés. Donc on est vraiment dans quelque chose de très critique de son prédécesseur. Mmh. Et puis cela concerne évidemment cette relation assez spéciale que Trump avait entretenue avec Kim Jong-un. Est-ce qu'il peut vraiment revenir en arrière? Je pense que ça va pas être si facile que cela. Hein. Les États-Unis ont perdu beaucoup de crédit dans la région, notamment vis-à-vis de l'allié sud-coréen, qui n'a peut-être pas l'intention de voir à nouveau se durcir ce dossier nord-coréen.
Oui, au contraire, on a entendu un message du président sud-coréen qui, immédiatement après l'entrée en fonction de Joe Biden, a appelé Washington à poursuivre sur le chemin du dialogue. Donc on voit bien qu'il y a un travail là qui est fait du côté de Séoul. Emmanuel Maître, sur ce dossier nucléaire nord-coréen, alors évidemment, on sait bien que il est complètement impossible d'obtenir une dénucléarisation de la Corée du Nord, parce que c'est d'une certaine manière la garantie de la survie, la garantie de survie du régime. Mais est-ce qu'on peut obtenir des choses, Emmanuel Maître?
Alors, ce qu'a réussi à obtenir peut-être l'administration sortante, c'était un moratorium sur les essais de longue portée. Ça va peut-être changer. On peut tout le monde anticipe, en tout cas, des essais dans l'année qui vient. Au fond, c'est pas une modification majeure. On a bien vu qu'en fait, malgré les sommets, malgré l'amitié supposée entre les deux leaders, le programme balistique, il avait continué. Et d'ailleurs, le défilé qu'on a vu il y a quelques jours avec des missiles ICBM, SLBM, etc., très longue portée, ça prouve bien que le programme a continué, que les recherches, etc., ont continué pendant les 4 ans, se sont même intensifiées. Donc les choses, là, je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de continuité, si ce n'est peut-être des essais qui seront un petit peu plus ouverts pour du côté de Pyongyang.
On était avec vous, Emmanuel Maître, et vous, Barthélémy Courmont, dans cette table ronde Joe Biden à l'épreuve de la prolifération nucléaire avec nos partenaires du monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Premier traité multilatéral de désarmement nucléaire conclu depuis plus de 20 ans. Face à la menace grandissante que constituent les armes nucléaires, nous devons agir de toute urgence pour assurer leur élimination et prévenir les conséquences catastrophiques que toute utilisation entraînerait pour l'humanité et l'environnement.
Voilà donc message d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Un message qu'à quelques heures, hein, qui vient d'être publié parce que rentre en vigueur aujourd'hui un nouveau traité d'interdiction nucléaire signé par 50 pays. Alors aucun évidemment ne dispose de l'arme atomique, évidemment, mais c'est quand même un traité important. important. Vous en parliez tout à l'heure, Marc Sémo, au début de l'émission. Barthélémy Courmont, c'est important parce que ça introduit une nouvelle norme d'interdiction des armes nucléaires, où tout cela est quand même assez peu réaliste compte tenu de la situation d'aujourd'hui, des dossiers extrêmement chauds qui sont aujourd'hui sur la table. Barthélémy Courmont, comment vous jugez tout cela?
Alors d'abord un petit mot sur la, je dirais, la légitimité de ce traité. Il a été signé par je crois plus de 120 pays, hein, 122 si je suis précis, depuis sa signature. Donc c'est quand même important, hein. Ça représente environ 60 ou 65% des États membres des Nations Unies. Donc le nombre de signataires est très important. Il y a 50 États qui l'ont ratifié, hein, et c'était précisément le seuil qui devait être atteint pour qu'il puisse entrer en vigueur. Ce fut atteint en octobre dernier. Donc il y a une vraie légitimité dans la mesure où effectivement on observe non seulement un nombre très important de signataires. Je rappelle que c'est un traité qui avait été porté par des ONG, hein, et un nombre important d'ailleurs d'ONG. Et puis on se souvient du prix Nobel de la paix qui avait été attribué à ICANN en 2017, donc juste après la signature de ce traité. On a vraiment quelque chose qui est important, et les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vont véritablement dans ce sens, hein, comme si d'une certaine manière il y avait une légitimité, voire un aspect moral dans ce traité, un aspect moral qui a d'ailleurs été aussi repris à son compte par le pape François, qui a montré un petit peu le glissement de la position de Vatican sur la question du nucléaire. Désormais, ce n'est plus uniquement l'utilisation du nucléaire qui est condamnée par Vatican, mais également la possession des armes nucléaires. Et donc il y a une vraie légitimité qu'il faut quand même rappeler. Maintenant, effectivement, du fait que aucun pays possesseur de l'arme nucléaire, qu'il s'agisse des pays reconnus comme tels par le traité de non-prolifération ou les États proliférants, le fait qu'aucun ne se soit engagé dans ce traité en limite bien malheureusement la portée. Donc soyons clairs, il va y avoir un traité qui va peut-être progressivement s'installer dans les esprits, mais ne va pas avoir d'effet immédiat.
Vous avez évidemment raison, Barthélémy Courmont, hein, mais à coup de pas, ces 50 pays qui l'ont ratifié et non signé. Emmanuel Maître, il sert à quoi ce traité?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un certain paradoxe. Quand on interroge les États dotés d'armes nucléaires, comme la France par exemple, vous avez deux réponses complètement différentes. Certains vont vous dire... ça sert littéralement à rien. Aucune arme nucléaire ne va être démantelée grâce à ce traité. Aucun État qui en a va le signer. Mais de l'autre, on voit dans leurs efforts entre guillemets pour le critiquer et remettre en cause qu'il y a quand même une crainte que, dans une perspective beaucoup plus longue, beaucoup plus indirecte, ce traité puisse avoir un certain effet. De par son effort pour stigmatiser les armes nucléaires. Alors, c'est un effort qui peut certains, alors en particulier en France, hein, faut le dire, certains peuvent redouter que ça ait des effets juridiques au niveau international, par exemple qu'on en vienne à revenir à la Cour internationale de justice pour savoir s'il est légal ou pas d'avoir ce type d'arsenal. Ça peut avoir des effets politiques, alors en France pas particulièrement, mais dans un certain nombre de pays de l'OTAN en particulier, où il y a des mouvements citoyens, des mouvements politiques antinucléaires très forts. Beaucoup de pays de l'OTAN redoutent que ce traité puisse encourager, entre guillemets, ces mouvements de contestation du nucléaire militaire et venir affaiblir la stratégie de dissuasion nucléaire de l'OTAN. Donc voilà, sur le court terme et sur les aspects pratiques, évidemment, tant qu'aucun État nucléaire ne le ratifie, pas d'effet direct. Mais sur le long terme, la création d'une norme et puis la capacité à influencer un petit peu les équilibres politiques, ces promoteurs espèrent véritablement qu'il pourra avoir une influence.
Marc Sémo.
Oui, justement, sur ce point d'affaiblir ou de secouer l'OTAN, c'est un risque réel, parce que certains gouvernements de coalition de pays nordiques, par exemple, ou des Pays-Bas, peuvent être tentés de prendre des décisions très dures, d'autant que le traité interdit la possession, même le transit des armes nucléaires, et dans ces pays où il y a un fort mouvement pacifiste et antinucléaire, cela pèse politiquement. Et donc, c'est un scénario qu'on peut imaginer ou non.
Barthélémy Courmont.
Alors, j'aimerais mettre peut-être l'accent sur le profil de Joe Biden sur ce point et sur les problèmes qu'il risque de rencontrer. On se souvient que Barack Obama avait, au début de son premier mandat, tenu un discours très fort à Prague, qui lui avait en grande partie valu le prix Nobel de la paix dont il avait été récompensé la même année.
Où avait été signé, et, je rappelle, le traité New Start dont on parlait. Pardon, je ferme la parenthèse.
Voilà,
absolument. C'est à ce moment-là. Non, mais c'est important, il y avait une concomitance qui était importante à souligner.
C'est important de le rappeler. Tout à fait. Et effectivement, à l'occasion de ce traité, il avait par ailleurs tout simplement appelé à une dénucléarisation. Hein. Donc c'était la première fois qu'on avait un président américain à ce point engagé dans la voie de la dénucléarisation et pas simplement du contrôle des armes nucléaires. Et on va évidemment attendre Joe Biden au tournant sur ces questions maintenant que le traité entre en vigueur et maintenant qu'il y a d'une certaine manière une obligation morale. Je reviens sur ce point qui est ici tout à fait essentiel. Donc est-ce que le président américain qui, vous l'avez dit, fait état de la volonté de revenir à la table des négociations avec Moscou, de maîtriser les armements, de ne pas s'engager dans une course aux armements, va aller jusqu'à reprendre les engagements qui étaient ceux de son prédécesseur Barack Obama et par conséquent essayer d'aller en direction précisément de ce texte. Personnellement, j'en doute très fortement, mais est-ce que justement le fait qu'il risque de ne pas accompagner ce mouvement ne va pas l'exposer à des critiques et à une forme de paradoxe qui serait celui de ce président américain. Donc il y a là, je pense, des questions qui vont être tout à fait intéressantes à suivre.
Emmanuel Maître, est-ce que vous suivez Barthélémy Courmont sur ce point, c'est-à-dire la dénucléarisation prônée par Biden, elle sera compliquée et vous pensez aussi qu'il ne pourra pas y aller ?
Oui, alors je vais peut-être juste avant revenir sur cette question de l'OTAN, parce que c'est vraiment un point qui est en effet important et qui est souvent d'ailleurs critiqué chez les ONG, où certains leur disent bah, « écoutez, c'est un peu facile, vous essayez de coincer entre guillemets l'Allemagne, les Pays-Bas. Pendant ce temps-là, ce genre de traité, il a aucune influence au Pakistan, en Corée du Nord, en Chine, où... il n'y a pas vraiment d'ONG qui mettent des banderoles pour demander la suppression des armes nucléaires. Donc c'est une critique qui est un petit peu faite et qui peut aussi d'ailleurs se vérifier aux États-Unis, qui est un des pays qui est souvent le plus accusé par les ONG parce que c'est celui qui donne aussi des informations sur ses arsenaux, etc. Donc cette société démocratique, transparente, etc., est forcément, elle est un petit peu plus ouverte aux critiques. Mais concernant évidemment Joe Biden, et je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que en effet, il y a tout cet héritage de la présidence Obama et du début de cette présidence qui va être rappelé, qu'il y aura des attentes créées à ce niveau-là, mais les choses ont largement changé depuis. Et d'ailleurs, elles avaient déjà largement changé entre le début de la présidence Obama, où on avait cette sorte de vent d'espoir en faveur du désarmement, et la fin des 8 ans de l'administration, où l'administration, sur un ensemble de sujets liés au désarmement, s'est confrontée complètement bloquée, alors soit pour des raisons internes, par exemple l'incapacité à faire voter le traité d'interdiction des essais nucléaires au Congrès américain qui empêche toujours l'entrée en vigueur de ce traité, soit pour des raisons stratégiques, à savoir le durcissement des relations avec la Russie, avec la Chine, qui a fait que, de manière consensuelle, je dirais, au sein des États-Unis, au sein des pays de l'OTAN, des alliés en Asie, etc., la dissuasion nucléaire est redevenue quelque chose d'important pour assurer la sécurité de ces États. Et donc, il était plus question d'envisager des progrès immédiats en matière de réduction des arsenaux et d'autres mesures de désarmement.
Peut-être un dernier point, Barthélémy Courmont, parce que il y a évidemment cette recherche, cette ambition de trouver des traités pour limiter la prolifération nucléaire, mais il y a aussi une chose sur laquelle on peut travailler, c'est essayer de réduire le risque de dérapage. C'est-à-dire que la grande crainte avec l'arme nucléaire, c'est qu'il y ait un dérapage qui résulte d'une mauvaise interprétation des actions qui sont menées de part et d'autre. Donc l'objectif, au-delà de la question de la non-prolifération, c'est aussi de réduire au maximum cette ambiguïté qui peut parfois exister. Et pour ce faire, on met en place un certain nombre de règles, des codes, des normes de transparence, des codes de conduite, etc., etc., de sorte à ce que, au fond, l'adversaire puisse lire un peu clairement vos intentions. Est-ce que là, sur ce point-là, on peut attendre des avancées avec Joe Biden ?
Alors, on peut attendre des avancées avec la Russie, si effectivement on va vers une reconduction de New Start, et peut-être, espérons-le en tout cas, les relations seront apaisées sur ces questions stratégiques pour se concentrer sur d'autres projets qui effectivement peuvent être très très conflictuels, comme les cyberattaques ou Navalny, comme vous l'avez mentionné précédemment. Et il y a évidemment encore un certain nombre d'autres sujets. Donc il y a effectivement peut-être un certain nombre d'espoirs de ce côté. Mmh. En revanche, ça reste, je dirais, un petit peu éclipsé par la compétition de plus en plus sévère entre Washington et Pékin. Difficile d'attendre effectivement de ce côté des évolutions qui seraient des évolutions positives. On risque au contraire de renforcer peut-être côté chinois ce déni de transparence et cette volonté finalement d'avancer un petit peu de son côté. Et puis cela accompagnant une véritable militarisation malgré tout, hein, même si on n'est pas engagé dans une course aux armements nucléaire en tant que tel, et puis peut-être également des problèmes sur ces traités internationaux. Hein. Vous avez à l'instant mentionné le traité d'interdiction des essais nucléaires que le Sénat américain n'a toujours pas ratifié, et on imagine difficilement qu'il le ratifie prochainement. Il y a là effectivement aussi des problèmes dans une gestion multilatérale de ces questions. On a l'impression finalement que les questions de dissuasion, puisque là on est dans le champ de la dissuasion, restent exclusivement des questions bilatérales et ne parviennent pas à être réglées de manière un petit peu plus multilatérale. Et c'est effectivement quelque chose qui nous invite à être très prudents, puisque ça va dépendre des équipes en place, hein, et on l'a vu notamment avec l'administration Trump qui était plus comment dire réfractaire à un dialogue avec Moscou. On le voit aussi avec l'attitude de pays comme l'Iran ou la Corée du Nord.
Merci beaucoup Barthélémy Courmont et Emmanuel Maître de nous avoir éclairé ce matin sur cette question de la prolifération nucléaire. Joe Biden à l'épreuve de la prolifération nucléaire, une émission qu'on peut évidemment retrouver sur le site de France Culture, la page de Culture Monde.